Planisphère, l'émission géopolitique de Radio Notre-Dame, Hugo Billard.
Bonjour à tous. Le monde change en permanence. 2019 n'a pas fait exception. Alors que commencent les vacances d'été et qu'est venu le temps du bilan, une des questions que je me pose porte sur la capacité à expliquer et à représenter un monde en changement constant. Comment peut-on cartographier un monde en transformation constante? C'est une question ancienne, une question que je me suis posée pendant toute l'année. Et pour y répondre, j'ai invité à ce micro deux diplômés d'HEC. Ils interviennent tous les deux en classe préparatoire aux grandes écoles. Et ils connaissent bien les questions de représentation. Bonjour Mathieu Alfray.
Bonjour.
Bonjour Christophe Chabert.
Bonjour.
J'ajoute pour vous, Christophe Chabert, que vous êtes l'auteur du site mindthemap.fr et le cartographe de l'ouvrage qui va nous occuper aujourd'hui, dont Mathieu Alfray a écrit les textes. Vous venez tous les deux de faire paraître aux éditions Autrement un livre qui manquait, notamment aux étudiants, je pense au mien, Le monde en carte, méthodologie de la cartographie. Alors, j'ai reçu à ce micro cette année 8 cartographes ou auteurs d'atlas, et il y a aujourd'hui dans l'édition en langue française une véritable appétence pour les cartes. Elles reflètent les demandes du public, on voit bien ça. Émilie Aubry, le visage et la voix de l'émission d'Arte, Le dessous des cartes, a préfacé votre ouvrage, et elle écrit ceci. Nous vivons une époque où seuls ceux qui sauront regarder le dessous des cartes, sans se contenter de l'immédiateté et des apparences, en comprendront les enjeux et sauront s'y retrouver. Comment est-ce qu'on peut expliquer, Mathieu Alfray et Christophe Chabert, ce besoin de cartes que l'on observe aussi à la télévision et sur les sites internet des journaux? Qui veut commencer?
Christophe.
Écoutez, je vais me lancer. Je crois, pour ma part, qu'on vit dans une société où le court terme a pris le dessus sur tout le reste. On a un flux d'informations continu, permanent, parfois anxiogène, qui perd nos cerveaux. Et la carte est intéressante parce qu'elle pose les phénomènes, elle permet de représenter le monde et de délivrer un message rapide. Donc c'est, je dirais, le premier avantage de la carte et la raison pour laquelle aujourd'hui elle a tendance à revenir en force à la télévision, sur les sites internet, dans les manuels.
On la voit, il y a des numéros spéciaux du monde, des numéros spéciaux d'atlas de l'histoire, vous en avez partout, tous les numéros d'économie ne se font pas sans carte. Il y a une vraie appétence envers cette représentation.
Oui, parce que, encore une fois, on vit dans une société d'images. On est entouré d'écrans. Et je pense que c'est la vision aujourd'hui qui est la plus importante. C'est-à-dire un téléspectateur, un lecteur aujourd'hui va s'arrêter sur ces images et il est très important qu'elles soient percutantes, qu'elles délivrent un message rapide. Et la carte fait partie, finalement c'est une représentation, c'est une image, c'est un visuel. Et c'est aussi pour ça, je pense, qu'elle reconnaît un succès nouveau, même si effectivement les cartes ont été... de tout temps importante pour les humains.
Mais on peut lui faire dire absolument n'importe quoi. Une carte, de fait, le problème de la source, le problème de la construction d'une légende structurée. Parce qu'aujourd'hui, n'importe qui peut construire n'importe quoi en carte dans les journaux ou sur Internet ou ailleurs. Il en est de même des images qu'on peut tronquer, il en est de même des textes que l'on peut caviarder. Donc finalement, la carte subit les mêmes problèmes que les autres, Mathieu Alfray.
La carte peut tendre à subir les mêmes problèmes que les autres, et je pense que ça pose justement la question du cartographe et de son éthique. L'éthique du cartographe, c'est justement de commencer à expliciter les sources qu'il utilise dans sa représentation, et aussi de faire preuve, de ce dont font preuve également les autres, à savoir d'objectivité et d'une volonté de scientificité dans la représentation des événements géopolitiques. Donc je pense que derrière la question de la place des cartes dans notre société, c'est aussi celle du rôle et des valeurs du cartographe qui, à mon sens, est posée. Un ouvrage est paru récemment dans les éditions Autrement, qui s'appelait « Comment faire mentir les cartes ?» et qui va justement dans le sens de votre interrogation sur la capacité à faire dire la vérité à une carte aujourd'hui.
Marc Montmonier. Pour revenir justement à cette question de faire à une carte à peu près ce qu'on veut, vous avez dans votre ouvrage Le monde en carte, méthodologie de la cartographie, à peu près 35 cartes réalisées à la main avec une légende longue et expliquée sont proposées. Elles suivent pour l'essentiel le programme des prépas HEC, mais pas seulement, aussi de ceux qui préparent les écoles normales supérieures, ceux qui préparent l'agrégation de géographie et d'histoire. C'est vraiment très utile. Alors vous les avez réalisées, cette trentaine de cartes, Christophe Chabert. Pourriez-vous nous expliquer ce qui est pour vous une bonne carte?
Alors,
question à 150 000 euros.
Exactement, parce que finalement, tout dépend de l'objectif de la carte. Si on s'adresse, si je réponds à cette question en me mettant à la place d'un étudiant, par exemple, je dirais qu'on a une bonne carte va répondre à différents critères. On va avoir premièrement un critère de localisation, c'est-à-dire qu'il va falloir que les étudiants soient capables de placer les pays, les noms de villes, les noms de fleuves, les grands éléments de nomenclature qui sont importants pour finalement la compréhension de la carte, hein, les localisations. On va avoir...
Et vous pensez qu'il y a vraiment que par rapport à ça ? Parce que j'entends toujours des gens dire « mais on ne connaît plus les départements, les noms des pays, etc. etc. » Les générations d'aujourd'hui, elles connaissent ça ou il faut leur réapprendre ?
J'ai le sentiment qu'il faut quand même leur réapprendre, pour être tout à fait honnête. Effectivement, en tant qu'Européens, par exemple, nous on s'adresse avec Mathieu à des étudiants français, donc qui sont des Européens. Force est de constater que les pays d'Europe ne sont pas toujours connus, voire pas du tout. On peut encore confondre la Pologne et l'Allemagne.
T'as les grandes leçons, mais Slovénie, Slovaquie, après tout, c'est à l'Est, on ne sait pas trop, ça commence pareil.
Oui, mais c'est quand même important, parce qu'on fait partie d'un continent qui essaye de s'unifier. Donc à un moment, il va falloir quand même qu'on fasse un effort les uns et les autres pour apprendre à se connaître. Et effectivement, les localisations, la géographie est importante. Donc je dirais que sur une carte, il faut absolument, en tout cas, respecter ces règles de nomenclature et connaître ces localisations.
Pour rebondir justement sur ce point, je voudrais mettre en évidence qu'il y a un vrai paradoxe. Je trouve que la connaissance des départements, la part des étudiants notamment que je fréquente, est plus faible que celle d'autres pays du monde. Donc comme si vous voulez, l'échelle mondiale était un petit peu plus comprise et un petit peu mieux maîtrisée que l'échelle nationale et locale aujourd'hui.
Surtout qu'on n'apprend plus du tout les départements, ils n'ont plus aucun sens d'une certaine manière. Vous avez 13 grandes régions, puis c'est à peu près tout. Voilà. Est-ce que vous avez des trucs pour retenir les localisations des pays d'un continent à un autre dans un espace donné? Je pensais aux pays baltes parce que les étudiants posent toujours la question de savoir comment est-ce qu'on peut distinguer Estonie, Lettonie, Lituanie. Vous avez des trucs comme ça que vous donnez à vos étudiants? C'est aussi une question à 200 000 euros.
Dans le cas des pays baltes, on peut respecter l'ordre alphabétique, hein, du nord vers le sud, Estonie, Lettonie, Lituanie, qui est un bon moyen mémotechnique. Après, moi, quand j'étais à la place des étudiants, j'avais surtout à mon bureau, en face de moi, un planisphère. Donc, que je fasse des maths, de la littérature, de la philo, j'avais toujours mon planisphère en face. Et je pense qu'à un moment, mon œil a imprimé les noms des pays, des villes. Et en fait, finalement, c'est une question d'habitude. À force de voir ce planisphère en face de moi, ça finit par fonctionner et rentrer dans mon cerveau. Il y a une question quand même. Enfin, pour moi, on est obligé de répéter. Il y a beaucoup de pays, il y a beaucoup de villes, il y a beaucoup de régions. C'est pas quelque chose qu'on peut assimiler en quelques heures.
Je crois qu'il y a deux conseils qui sont souvent donnés aux étudiants. Le premier, c'est la visualisation, comme le disait Christophe. Et justement, cette visualisation, elle peut se centrer sur des zones qu'ils connaissent moins bien. Un étudiant ou une personne qui aurait des difficultés à visualiser l'Afrique ne se contentera pas d'un planisphère, mais dans cette hypothèse-là, du coup, d'une carte du continent africain. Et puis, il y en a une deuxième qui est l'apprentissage par la pratique. Et c'est ce que l'on propose également dans cet ouvrage, qui consiste à faire des cartes, produire ses propres cartes. C'est aussi un excellent moyen de se confronter à la nécessité de bien connaître ces localisations.
Oui, vous donnez à la fin de l'ouvrage des planisphères vierges avec des centralisations différentes, centrées sur le Pacifique, centrées sur l'Atlantique, c'est un petit peu plus classique. Les cartes inverses, il y a de quoi s'amuser avec l'Australie en haut et l'Australie en bas. Pour terminer sur la question sur qu'est-ce qu'une bonne carte, Christophe Chabert, une bonne carte, c'est peut-être aussi une carte qui ne pose qu'une question. Ou est-ce qu'on peut dire beaucoup de choses avec une même carte? Vos cartes sont assez étouffues, il y a beaucoup d'informations autour de sujets très larges, entre 15 et 20 figurés, on est dans quelque chose qui est assez important, intellectuellement très fort, mais est-ce qu'une bonne carte, c'est une carte qui se destine à un public et une question donnée, ou est-ce qu'une carte très touffue peut être destinée à tous?
Je pense qu'une carte très touffue peut être destinée à tous. Après, il faut faire attention quand même au nombre de figurés. Effectivement, avec Mathieu, on a fait le choix d'avoir des cartes qui sont assez... complète, dense, parce qu'on se disait qu'un étudiant qui va acheter notre ouvrage a besoin d'avoir un contenu important, hein, il faut qu'il en ait pour son argent. Pour moi, l'important, une bonne carte, c'est surtout une carte où, sans connaître le message que l'auteur, le cartographe, a voulu délivrer, le lecteur se rend compte qu'il se passe quelque chose. Il sort, il y a des effets de masse qui sortent de cette carte. Alors, on ne sait pas forcément de quoi ça parle tant qu'on n'est pas allé s'intéresser à la légende, mais en tout cas, on se pose des questions. On voit, rien qu'en regardant la carte, on se dit, là, il y a du rouge, il y a quelque chose, je ne sais pas, qui est en train de ressortir. Donc, le cartographe a voulu me délivrer un message important. Et la carte réussie pour moi, c'est celle où, justement, le lecteur va se dire, il va pouvoir identifier les deux, trois messages importants sans avoir à se référer à la légende.
Alors, par exemple,
là, le pari est réussi.
J'ai en face de moi une très belle carte. Page, j'arrive pas à savoir la page, mais c'est pas grave. On est au milieu de l'ouvrage, 1203. La corne de l'Afrique et sa périphérie, des territoires en crise. On est centralisé autour du détroit du Babel-Mandeb, de Djibouti, de cet espace Éthiopie-Somalie. En rouge, qu'est-ce que vous avez voulu montrer? On voit quatre pays. L'Éthiopie au centre, le Sud-Soudan à l'ouest, le Yémen au nord, la Somalie à l'est. C'est parce que tout s'organise autour de ces pays, parce qu'en rouge, on voit aussi Djibouti. Est-ce que ce n'est pas finalement Djibouti le centre de la carte? C'est ce paradoxe que vous avez voulu montrer?
Là, il y a deux éléments visuels importants. D'un côté, ce détroit de Babel-Mandeb, qui est d'une importance géostratégique et économique majeure pour le commerce mondial et même des questions tout simplement politiques.
Pour les auditeurs, le détroit du Babel-Mandeb, c'est le cousin du détroit d'Ormuz le long de cette péninsule arabique. Vous avez le détroit d'Ormuz qui sort du golfe arabo-persique et vous avez le Babel-Mandeb qui ouvre sur la mer Rouge et sur le canal de Suez.
Pour prolonger les rapprochements avec l'actualité également, les deux font l'objet d'un intérêt certain de la part de l'Iran. Ça n'a échappé à aucun de nos auditeurs.
Et je rebondis, Hugo, sur votre question sur cette carte bien précise. Effectivement, certains pays se détachent en rouge parce qu'on est sur une zone où il y a des pays qui sont complètement faillis. Des pays où l'État n'arrive plus à contrôler son territoire, où des guerres civiles, des situations de famine, de détresse des populations, de déplacements internes de millions de personnes sont en cours.
On voit la Somalie coupée en trois, hein, le Somaliland, le Puntland, la Somalie elle-même, la ville de Mogadiscio qui est un peu toute seule.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a affaire à un pays qui finalement n'est plus vraiment un pays, un État dans le sens occidental du terme. Pour nous, la France, par exemple, est un État unifié. On a une police, une justice, des frontières qui sont gardées, une organisation du territoire. Tout est bien contrôlé, on va dire, par l'État. En Somalie, on a des groupes divers qui se font la guerre pour le pouvoir. On a certaines régions comme le Somaliland qui voudraient gagner leur indépendance quand l'État central...
Qui sont reconnus par certains États.
Reconnus par certains États qui vont pouvoir en tirer des avantages. Par exemple, un accès à certains ports. Alors ça n'arrange pas d'autres États qui vont du coup s'associer au gouvernement central de Mogadiscio pour pas que ça se fasse. Donc on comprend bien effectivement que sur cette corne de l'Afrique, on a des situations qui paraissent inextricables. On parle de la Somalie, mais juste en face de la Somalie, de l'autre côté du golfe d'Aden, on a le Yémen qui, depuis je dirais les années 90, finalement depuis son unification, est en guerre civile. Donc finalement, on est sur une région où des deux côtés de ce golfe, on a des États qui ne fonctionnent plus, qui sont mal.
Et puis vous le montrez, c'est une carte qui montre tous les paradoxes, dans le sens où à Djibouti, vous avez 7, 8 grandes bases militaires de grands États du monde, mais y compris la Chine, le Japon, la France, les Allemands y sont présents, les Américains, les Britanniques y sont présents. Et c'est comme si tout autour, même si entre l'Éthiopie et l'Érythrée, les choses vont mieux depuis quelques mois, il y a un semblant de reconnaissance mutuelle qui s'opère, c'est comme si tout autour de cet îlot de prospérité centrale, on avait un désordre gigantesque. Est-ce que c'est quelque chose qu'on voit ailleurs dans le monde, ces paradoxes territoriaux? Parce que les cartes sont là pour les représenter.
Alors, Mathieu, oui.
Un cas qui serait aussi extrême que celui de la corne de l'Afrique, probablement pas. Dans la mesure où la corne de l'Afrique concentre, comme le disait Christophe, l'instabilité étatique, des crises humanitaires extrêmement graves, mais aussi une importance géostratégique liée au transport de matières premières maritimes. En revanche...
C'est du pétrole, c'est du gaz,
c'est du pétrole, c'est du gaz naturel liquéfié en particulier. C'est aussi des flux qui sont liés au commerce de biens manufacturés en provenance d'Asie du Sud-Est et en destination de l'Europe, dans le cadre notamment des routes de la soie décidées par le président annoncé par le président Xi Jinping en 2013.
Transformé, accentué, elles existaient avant.
Exactement, évidemment. Mais au-delà de cela, il y a évidemment d'autres zones dans le monde qui font état de points de tension et de points de friction extrêmement importants et tout aussi stratégiques. On pense notamment
au détroit de Malacca.
Voilà, exactement, à l'Asie du Sud-Est et l'Asie archipélagique, donc au détroit de Malacca. Mais à terme, et comme Christophe et moi apprécions bien la prospective, on pourrait même peut-être identifier dans le passage du Nord-Ouest, par exemple, des enjeux tout aussi forts, modulo évidemment les instabilités étatiques qui n'existeront probablement pas dans la région.
Le passage du Nord-Ouest et le pôle Nord?
À ce niveau-là, exactement. à ce niveau-là.
Alors justement, à la fin de votre ouvrage, on va parler du reste tout à l'heure, mais à la fin de votre ouvrage, vous avez une très belle carte étonnante qui s'appelle « Notre vision du monde en 2050 ». Alors on y retrouve vos lectures, on y retrouve vos influences, vous avez écarté les éléments qu'on aurait pu attendre aussi, mais c'est la question que vous posez autour de cette carte, c'est la viabilité du monde. Pourquoi ce choix, Mathieu Alfred, d'une carte de prospective si personnelle finalement? Elle est parfaitement intéressante, hein, on peut vraiment l'étudier pour le coup, je pense que l'année prochaine, la faire étudier à mes étudiants, mais pour le coup, notre vision du monde en 2050, c'est un rapport de la CIA, votre carte, ou c'est votre vision à vous?
C'est un petit peu des deux. C'est un petit peu des deux. On a tous nos influences dans la réflexion. Non, je dirais simplement pour répondre à la question de la viabilité du monde. Vous savez, j'ai également une formation en philosophie et la question que vous m'avez posée m'a fait penser à Albert Camus. Albert Camus disait dans le mythe de Sisyphe que le suicide est la seule question philosophique vraiment sérieuse. Quelque part, je me dis aujourd'hui que la viabilité du monde, c'est la seule question géopolitique qui est véritablement sérieuse parce que beaucoup en dérivent. Si je prends l'exemple concret de notre carte prospective sur le monde en 2050, plusieurs tendances sont représentées à l'intérieur de cette carte qui montrent combien la viabilité du monde préside à ces interrogations-là. Il y a par exemple la tendance du problème démographique, avec 10 milliards d'habitants en 2050 qui risquent justement d'avoir à coloniser des marges faute d'espace.
Donc des pays avec une très forte croissance démographique, d'autres qui sont en perte complète.
Exactement, le vrai paradoxe. Alors nous, c'est moins avancé que dans d'autres pays, mais si on regarde un pays comme la Russie ou comme le Japon, faute d'immigration et pour des raisons qui sont aussi internes à ses propres pays, il y a une baisse du nombre d'habitants. Au Japon, c'est pratiquement 1 million d'habitants par an, également comme en Russie. Donc ça, ce sont des pays qui sont en perte démographique pour des raisons de surmortalité chez les hommes, notamment en Russie, et de manque d'ouverture à l'immigration au Japon. Mais il y a d'autres pays qui connaissent une dynamique démographique considérable. Et là, la région qui nous intéresse est proche justement de la Corne de l'Afrique, puisqu'il s'agit de la zone sahélo-saharienne et plus spécifiquement des pays comme le Niger.
Donc la zone sahélo-saharienne, c'est une zone qui va de Dakar à Djibouti.
Voilà, exactement. Ça va de Dakar à Djibouti et c'est là, dans ces pays-là, que se concentrent en tout cas les taux de natalité qui sont les plus élevés. L'exemple du Niger est souvent cité. Ça représente une natalité de 7 enfants par femme qui s'explique pour beaucoup de raisons, qui pose la question notamment de l'éducation. Mais c'est dans ces endroits-là que la croissance démographique sera appelée à être la plus importante d'ici 2050. Il y a évidemment d'autres enjeux que le simple quantitatif sur ces pays, puisque le niveau d'éducation sera en jeu, les événements migratoires qui pourraient en découler pour l'Afrique ou pour les pays d'Europe seront aussi considérables. Donc là, on voit à travers une seule tendance de cette carte, qui en comporte 5 différentes, à quel point la géopolitique est interrogée, questionnée par cette viabilité du monde.
Et puis des pays qui aujourd'hui font 1,5 milliard d'habitants comme la Chine vont voir leur population se tasser, bien moins grandir. On en a parlé plusieurs fois à ce micro cette année.
Tout à fait. Et sur la question chinoise, elle paye en quelque sorte le choix de la politique de l'enfant unique, qui a d'ailleurs été arrêtée en 2015 par Xi Jinping, mais relativement tardivement. Et je pense que la rupture psychologique sur le plan chinois se fera lorsque la population indienne dépassera la population chinoise.
Alors évidemment, en 2032, 2035,
c'est ce qui est prévu, si on peut projeter évidemment les dynamiques démographiques sans impact au-delà de ce que l'on connaît déjà. Mais du coup, l'impact psychologique sera considérable. Et quand on connaît justement les inimitiés qui peuvent exister entre la Chine et l'Inde particulièrement, avec des contentieux frontaliers des années 1960 qui manquent toujours de se réactiver année après année, on peut effectivement s'attendre à un bouleversement important de la géopolitique de l'Asie de l'Est.
Et alors, au-delà de la question démographique, vous avez également les effets directs du réchauffement, mais du dérèglement climatique. Parce qu'un refroidissement d'un côté, réchauffement de l'autre, on est dans quelque chose d'assez complexe, on le sait aujourd'hui. Et vous mettez vraiment en avant, autour de la question du monde viable, la question de l'environnement, pas des transformations de l'environnement lui-même, mais de la manière dont les États et les populations réagissent à ces environnements. On retrouve dans votre carte la question de la surexploitation des forêts, la désertification et la disparition de terres par immersion. Finalement, quelque chose dont on parle assez peu, la disparition des terres par immersion. Qu'est-ce qu'on a comme source là-dessus, Christophe Chabert?
Ben, on commence déjà à le voir sur les îles du Pacifique, par exemple. Hein, on commence, c'est les populations des îles Tonga, du Vanuatu, dans les grandes assemblées de l'ONU dédiées aux questions environnementales, tirent la sonnette d'alarme parce qu'ils se rendent bien compte que le niveau de la mer monte. Alors nous, effectivement, en France, on s'en rend moins compte, peut-être, alors qu'on a déjà des indicateurs. Sur la côte atlantique, on a des falaises qui s'écroulent, la terre qui recule, les tempêtes sont de plus en plus violentes, la mer gagne du terrain, on s'en rend bien compte. Et tout se passe comme si on savait que ce phénomène arrive, mais on n'a pas envie de le voir. On sait très bien que c'est en train d'arriver, mais on se voile la face parce que finalement on n'a pas de solution, ou alors on n'a pas envie d'en avoir. Je pense à un pays par exemple qui va vraiment souffrir de cette montée des eaux, c'est le Bangladesh. Le Bangladesh est au niveau de la mer, c'est un delta. Et effectivement, si le niveau de la mer monte de quelques mètres, tout va être englouti. Et on est sur un pays qui a 200 millions d'habitants. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Ces 200 millions d'habitants ne vont pas avoir d'autre choix que de finalement de migrer. Alors, ils vont migrer où ?
En Inde, en Birmanie.
En Birmanie, qui sont des pays qui apparemment n'ont pas vraiment envie d'accueillir des populations musulmanes et qui l'ont démontré ces dernières années. Je pense au massacre des Rohingyas, par exemple, en Birmanie. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de, tous ces, de toutes ces personnes qui, de toute façon, tôt ou tard, ne vont plus pouvoir vivre là où elles sont actuellement ?
Alors, je ne déflore pas un sujet en disant que vous n'avez pas 70 ans, vous les avez peut-être ensemble, et encore, c'est même pas tout à fait sûr. Quel regard est-ce que vous portez sur ce mouvement qu'on voit depuis une bonne année autour d'un certain nombre de figures médiatiques assez importantes, de manifestations pro-environnement partout en Amérique du Nord, en Europe ou ailleurs ? Ça vous paraît vain, ces grandes manifestations générationnelles, ou c'est quelque chose qui, pour le coup, correspond à une vraie attente ?
Pour faire à nouveau le parallèle avec les années 1960, justement, ces phénomènes de manifestation de jeunesse ne sont jamais anodins. Ils sont révélateurs d'une crainte, d'une angoisse, peut-être de leur part d'un certain ras-le-bol, vis-à-vis des prises de décision politiques et de leur application concrète. Quant à leur portée réelle pour faire changer les choses, pour l'instant, on peut véritablement en douter. La voie de la manifestation, parce que aujourd'hui, elle relève de moins de personnes, elle a moins de relais, n'a pas forcément pour espoir et pour possibilité de changer les choses rapidement et dans le bon sens. En revanche,
les manifestations numériques sont plus efficaces, c'est ça ?
Les manifestations numériques ont un fort degré d'efficacité, et au-delà de cela, je pense notamment à l'action juridique. Aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est que par exemple, l'État français a été sur la voie d'une condamnation en première instance pour carence fautive, notamment dans la lutte contre la pollution de l'air, et ça, c'est une vraie, vraie modification. Si on se décentre simplement de la France ou de l'Europe, des pays comme la Colombie, par exemple, commence à reconnaître un ordre naturel et le début d'une personnalité juridique véritablement pour la nature et l'environnement. Et donc ça, c'est aussi un levier qui est de nature à faire changer les gouvernements et les acteurs. Par ailleurs, au-delà des manifestations donc de l'opinion publique, au-delà du juridique et donc des acteurs étatiques, il y a également les acteurs privés qui s'y intéressent de plus en plus et qui considèrent que les changements dans le sens de l'environnement vont dans le sens de leur activité économique ou de leur business. Je prends un exemple assez simple. Une firme multinationale comme Danone, par exemple, commence à mettre en place la certification B Corp, qui est une certification qui permet de mieux respecter des problématiques sociales et environnementales. Donc il y a des mouvements, effectivement, et les manifestations
sont un peu du greenwashing, ça, comme on dit, c'est-à-dire un mouvement qui tend à ce que certaines entreprises maquillent en vert et en écolo des processus qui existaient déjà pour faire croire qu'ils font de l'environnement ?
C'en est un risque lorsque les processus existaient déjà, mais lorsqu'il y en a plus qui sont mis en place, notamment dans la meilleure gestion des sous-traitants, et l'attention à diminuer son impact carbone, ça va au-delà du greenwashing. Donc effectivement, d'un point de vue extérieur, il est difficile de séparer les deux. Mais ce qui est clair, c'est lorsque l'on regarde, pour le cas des certifications par exemple, leur contenu technique, il y a des vraies avancées qui sont faites de la part de firmes multinationales, y compris. C'est là toute la question et tout le paradoxe, en fait, puisqu'elles sont souvent accusées de leur manque d'activité en faveur de l'environnement.
Et donc autour de la question environnementale, l'autre question qui se pose, c'est celui, et il est lié immédiatement, c'est celui du devenir énergétique. Vous avez plusieurs cartes dans ce très bel ouvrage qui porte sur la question énergétique. Mais je reviens à votre carte finale sur votre vision du monde en 2050. Et vous mettez fortement en avant la transition entre l'écologique et l'énergétique. Vous dites qu'il transforme les rapports de force géopolitiques. On le voit aujourd'hui avec les États-Unis qui n'ont plus besoin finalement du pétrole moyen-oriental, mais qui continuent de s'impliquer dans les affaires moyen-orientales. Est-ce que finalement la question de la fin de ces productions est viable à l'échelle 2050, ou est-ce qu'on est en train de marcher un peu sur la tête et de fantasmer autour du fait qu'on va tous être dans le biocarburant brésilien, dans le biocarburant nigérian, etc. Quel regard vous avez là-dessus, et notamment dans votre carte sur l'énergie, Christophe Chabert ?
Alors, j'espère qu'on n'ira pas vers le biocarburant brésilien, parce qu'en fait,
ce serait une autre catastrophe.
Pour moi, ce serait une autre catastrophe. On a besoin de terres arables pour nourrir les hommes avant tout, plutôt que de produire des biocarburants qui utilisent beaucoup d'eau, qui sont polluants. Donc finalement, on règle le problème en créant de nouveaux problèmes. Par contre, sur la transition écologique, je pense qu'on a de plus en plus, et on le voit, hein, des technologies qui, il y a une dizaine d'années, n'étaient pas rentables et qui commencent à l'être. Elles commencent à l'être parce qu'il y a du financement, il y a des grosses entreprises, des gros fonds qui commencent à investir dans les éoliennes en mer, sur des gros parcs solaires. Je pense au plan que Jean-Louis Borloo avait eu à une époque d'électrification de l'Afrique en recouvrant le désert du Sahara de panneaux solaires. Moi, personnellement, je pense qu'on n'a pas la réponse. On ne peut pas, ce serait parler tel un oracle que de dire oui ou non, on va y arriver. Je pense qu'on a par contre les moyens techniques de faire, de réaliser cette transition écologique si on le veut.
Eh bien, il y a énormément de sujets potentiels. Merci beaucoup Mathieu Alfré, merci beaucoup Christophe Chabert. Je renvoie nos auditeurs à votre livre « Le monde en carte, méthodologie de la cartographie » paru aux éditions Autrement. À tous, à la semaine prochaine. Et d'ici là, comme le dit le grand Philippe Meyer, que le ciel vous tienne en joie.